À l'écoute de RFI, il est 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes pour, mais il y a des nuances. Ce sont les premiers mots de Vladimir Poutine au sujet d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Vu des États-Unis, Donald Trump estime prometteuse cette déclaration du président. Les deux hommes devraient bientôt s'entretenir par téléphone. Quant à l'Ukraine, aujourd'hui, sur le terrain, elle se retire de la région russe de Koursk. Analyse de tous ces faits dès le début du journal.
Et après cette édition, notre dossier défense dans RFI Soir. On va évoquer l'état des forces en Europe pour faire face au désengagement américain. On sera avec nos collègues de l'hebdomadaire Le Point qui se penche sur cette question.
La guerre à Gaza est également à la une. Pour l'ONU, les attaques de l'armée israélienne sont des actes génocidaires. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit des policiers en tenue entrer dans les bureaux du Parlement européen. Perquisition aujourd'hui pour des soupçons de corruption. Pierre Benazet nous attend à Bruxelles. Un anniversaire à l'hôpital pour le pape François. Le représentant des catholiques dans le monde passe le cap de ses 12 ans de pontificat alité. L'affaire Betaram, l'évêque de Bayonne face à la colère des victimes de violences sexuelles que vous entendrez. Football, à la une du journal des sports, le retour de Kylian Mbappé en équipe de France. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est en quelque sorte un oui, mais qu'a formulé Vladimir Poutine il y a quelques heures à la proposition d'une éventuelle trêve en Ukraine. Le chef de l'État russe insiste à plusieurs reprises sur son ouverture, mais sur les questions et les objections formulées, eh bien, il montre sans surprise qu'à ses yeux, le chemin sera encore très long pour y parvenir. Nous sommes en ligne de Moscou avec Anissa El-Jabri. Bonsoir.
Bonsoir.
On en sait un peu plus ce soir, Anissa, sur ce que veut Vladimir Poutine.
Eh bien, pas vraiment. Très clairement, le chef de l'État russe a semé quelques petits nouveaux cailloux, mais sans jamais rien vraiment dévoiler de son jeu. On voit d'abord, sans surprise, que Vladimir Poutine continue à vouloir ménager Donald Trump. Ses premiers mots sont pour lui, je cite, « Je voudrais commencer par exprimer ma gratitude au président des États-Unis, le président Trump, pour avoir accordé autant d'attention au règlement en Ukraine. » Mais premier, véritable et nouveau petit caillou. Le chef de l'État russe a cité aussi, juste après, les dirigeants de quatre pays qui, à ses yeux, s'investissent dans le règlement du conflit. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, soit les piliers des BRICS, cette enceinte diplomatique qu'il affectionne tant. Pas un mot, pas un seul pour les Européens avec qui le torchon brûle depuis plusieurs semaines. C'est sa diplomatie qui a assumé la charge quelques heures auparavant. Sergueï Lavrov a déclaré, je cite, « ne pas être intéressé par la position des pays de l'UE dans le règlement du conflit en Ukraine », une réponse particulièrement directe au secrétaire d'État américain Marco Rubio qui avait estimé, lui, que les Européens allaient devoir être impliqués sur l'Ukraine. Quant à l'envoi de soldats de la paix en européen en Ukraine poussé par Londres et Paris en cas d'arrêt des hostilités, eh bien le ton est encore monté d'un cran pour la porte-parole de la diplomatie russe. Cela serait considéré par Moscou comme, je cite, un conflit armé direct avec ses troupes.
Anissa El-Jabri, nous comprenons que Vladimir Poutine pose aussi des conditions à cette éventuelle trêve.
Oui, des conditions beaucoup, mais de nature très différente. L'une sur la mise en œuvre technique, mais aussi très politique, et l'autre plus vague, mais aussi très importante. Écoutez.
Nous sommes d'accord avec la proposition de cessation des hostilités, mais nous partons du principe que cette cessation doit conduire à une paix durable et éliminer les causes profondes de cette crise. Et comment les autres questions seront-elles résolues? Comment les questions de contrôle et de vérification de la cessation des hostilités sur la ligne de front seront-elles organisées? Comment le contrôle sera-t-il fait? Qui donnera l'ordre de cesser les hostilités? Qui déterminera où et qui a violé l'accord éventuel de cesser le feu sur une distance de 2000 km?
Alors cette formule sur la paix durable et les nécessités d'éliminer les causes profondes de la crise, on la connaît bien et on sait qu'elle peut recouvrir beaucoup des exigences de Moscou posées sur la table bien avant de lancer son invasion de l'Ukraine. C'est le cas par exemple de l'inscription dans le marbre que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Sauf que sur tout cela, le Kremlin n'est pas sorti aujourd'hui d'une ambiguïté qui le sert. Le Kremlin qui n'aime rien tant que le silence et les échanges derrière les portes fermées, ce sera d'ailleurs, le cas ce soir avec l'émissaire américain Steve Witkoff. En attendant, eh bien, Vladimir Poutine ne l'a pas posé comme une condition claire, mais son intention est transparente. Rien de concret ne peut se produire tant que la région de Koursk n'est pas revenue totalement sous le contrôle russe.
Merci Anissa. Anissa El-Jabrian, direct de Moscou. Vu des États-Unis, le président américain demeure optimiste. Donald Trump juge que ce serait très décevant si ce soir la Russie rejetait la proposition d'une trêve dans cette guerre qu'elle mène en Ukraine.
Alors, les choses s'accélèrent évidemment dans le dossier ukrainien. Et dans ce contexte, eh bien, les chefs des principaux partis politiques français étaient réunis pour participer à une présentation des renseignements pour évaluer la réalité de la menace russe.
Oui, ça s'est passé cet après-midi à Paris. Le Premier ministre François Bayrou y participait. Il ne donne évidemment aucun détail sur le contenu de cette présentation, des discussions, nous le comprendrons, pour des raisons de secret défense. Il salue en revanche l'esprit de responsabilité de chacun.
Qu'on a pu traiter des devoirs qui sont ceux de la France pour reconstruire le plus vite possible ce qui peut l'être dans l'aide à l'Ukraine et dans la constitution d'une défense européenne. Je crois que tous les intervenants ont été frappés par le fait que c'était précis, approfondi, utile, qu'il n'y avait pas de secret dissimulé et que la discrétion que tous ont choisi de respecter pour qu'on puisse bâtir une politique. C'est un moment très, très difficile. C'est un moment très exigeant et c'est un moment qui exige beaucoup de solidarité nationale. C'est exactement ce que nous avons bâti cet après-midi.
Le Premier ministre français, propos recueillis par Raphaël Delvolvé.
On en vient à l'actualité de ce jeudi au Proche-Orient. C'est un acte de génocide, détruire des maternités et des centres de fécondation in vitro. Voilà la conclusion d'une commission d'enquête de l'ONU.
Cette commission des Nations Unies accuse Israël d'avoir créé des conditions telles à Gaza que les Palestiniens ne peuvent plus avoir d'enfants en sécurité. Un bébé né à Gaza aujourd'hui a plus de chances de mourir en étant enfant que n'importe quel autre enfant dans le monde. C'est ce que disent les enquêteurs. Les enquêteurs accusent en parallèle les forces de sécurité israéliennes d'utiliser systématiquement la violence sexuelle contre les Palestiniens arrêtés à Gaza et en Cisjordanie. C'est le cas notamment de Mohamed Hassan Matar. Il est venu aujourd'hui à Genève raconter son calvaire.
Il a pris un bâton et il a commencé à me frapper sur la tête, le corps, les pieds. Et puis il s'est mis à me sauter sur le dos, à pieds joints, pour me paralyser. Il a alors essayé de m'introduire le bâton avec lequel il me frappait dans l'anus. Dieu merci, je me suis débattu et j'ai réussi à le faire tomber. Mais il est devenu fou de rage et il s'est mis à me tabasser encore plus jusqu'à ce que le bâton se casse.
Un témoignage recueilli par Jérémy Lanche.
À l'écoute de Radio France Internationale, 19h08, ici à Paris. C'est le grand journal du soir avec Adrien Delgrange. Vous souvenez-vous du scandale du Qatargate? C'était fin décembre 2022. Et bien, plus de deux ans après, le Parlement européen, Adrien, est de nouveau dans le collimateur de la justice.
Ce ne sont plus des intérêts nationaux qui sont cette fois au centre de l'affaire, mais les intérêts commerciaux du géant chinois de la téléphonie mobile, Huawei. Pierre Benazet, à Bruxelles pour RFI. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Jeudi dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, la police fédérale belge en tenue a effectué perquisition et mise sous scellé.
Oui, les bureaux de deux assistants de députés européens ont été placés sous scellé, c'est ce que confirme le parquet fédéral de Bruxelles. Il ajoute qu'une personne a été arrêtée en France et que des perquisitions ont été menées ailleurs en Belgique et ça a mobilisé une centaine de policiers. Au total, 21 perquisitions ont eu lieu, dont une au Portugal. Pour l'instant, deux assistants parlementaires sont impliqués, selon le parquet fédéral qui ne donne pas de nom. Ce sont donc les acteurs de la corruption passive dans cette enquête, mais ce sont les lobbyistes de Huawei qui sont soupçonnés de corruption active. Parmi les autres chefs d'inculpation encore à établir figurent aussi appartenance à une organisation criminelle, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment de capitaux. Une corruption pratiquée régulièrement et très discrètement depuis 2021. Et en fait, de lobbying commercial, l'entreprise aurait, selon le parquet, rémunéré des prises de position politique et offert des cadeaux qualifiés de démesurés, comme des frais de restaurant, de voyage ou encore des invitations régulières à des matchs de football.
Merci Pierre. Pierre Benazé, en direct d'RFI pour, en direct de Bruxelles pour RFI. Le Canada qui par ailleurs a décidé aujourd'hui d'emprunter la voie judiciaire contre les États-Unis. Les autorités canadiennes ont déposé une plainte devant l'OMC contre les droits de douane imposés par le président américain sur l'acier et l'aluminium. Ottawa estime que ces mesures vont à l'encontre des obligations des États-Unis. Et puis ce revers judiciaire américain, cette fois-ci pour Donald Trump, un juge ordonne à 6 ministères de réintégrer des milliers de fonctionnaires fédéraux limogés par l'administration Trump. Selon ce juge, justifier ces licenciements massifs en raison de mauvaises performances constitue un prétexte afin de contourner les obligations légales. Retour à la politique européenne, la politique allemande. Le futur chancelier a présenté la semaine dernière un plan d'investissement géant négocié avec ses futurs alliés sociaux-démocrates. Il prévoit plusieurs centaines de milliards de dépenses supplémentaires pour l'armée allemande et pour les infrastructures du pays. Mais il faut pour cela réformer la Constitution, ce qui requiert une majorité qualifiée des deux tiers et l'approbation des Verts. Mais les écologistes allemands refusent d'approuver ces textes malgré des compromis du futur chancelier. RFI Berlin, Pascal Thibault.
L'offensive de charme est notable. Après avoir rudement attaqué les Verts durant la campagne, les chrétiens démocrates leur font soudain les yeux doux. Friedrich Merz remercie les écologistes pour les discussions des derniers jours. Avec ses futurs partenaires sociaux-démocrates, le patron de la CDU a amendé son texte pour obtenir le soutien des Verts. Les moyens supplémentaires pour la Bundeswehr doivent aussi concerner les services de renseignement et la cybersécurité. Et le fonds spécial de 500 milliards pour assainir les infrastructures doit mobiliser 50 milliards pour le climat. Friedrich Merz.
C'est une offre très concrète à notre adresse, car vous avez très justement, durant nos discussions des derniers jours, souligné que cet argent doit aussi profiter à l'environnement.
Mais les Verts restent, malgré ces avances sceptiques, ils dénoncent la volte-face de Merz, qui aurait pu voter de telles mesures il y a quelques mois avec le gouvernement Scholz. La méfiance est perceptible parmi les responsables écologistes, le coprésident du parti, Félix Banatschak.
Notre porte reste ouverte, mais il faut aussi vouloir l'utiliser. Ces dernières années, dans l'opposition, vous avez toujours refusé d'assumer vos responsabilités lorsqu'il en allait de l'avenir du pays.
Les débats sont musclés et ressemblent à un dernier round de la campagne électorale. Friedrich Merz finit par perdre son sang-froid alors que les Verts rejettent ses nouveaux compromis. Le futur chancelier lance alors aux écologistes « Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» Pascal Thibault. Berlin RFI.
Dans l'actualité française, venons-en à l'affaire Betaram. Face aux multiples dénonciations de violences physiques et sexuelles dans cet établissement catholique du sud-ouest de la France, l'évêque de Bayonne a exprimé aujourd'hui sa honte. Monseigneur Marc Hayet a également manifesté sa solidarité envers les victimes suite aux multiples dénonciations de violences physiques et sexuelles dans plusieurs établissements catholiques de son diocèse. À Rambeng, une séquence aujourd'hui perturbée tout de même par l'intervention d'un militant des droits de l'enfant.
L'Église a manifesté sa honte à plusieurs reprises et je le refais aujourd'hui. Ces mots sont de l'évêque de Bayonne, Monseigneur Marc Hayet, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée avec un représentant de la congrégation de Betaram et les responsables de l'enseignement catholique du diocèse. Des mots qui n'ont pas empêché Arnaud Gallet, cofondateur de Mouvement Enfant, une association de victimes de violences sexuelles, de s'insurger, gants blancs à la main gauche, le poing levé pour réclamer justice.
Que justice se fasse pour les victimes, c'est scandaleux. Et nous ne lâcherons pas. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Je ne lâcherai pas. Je soutiens mes frères de Betaram. Je soutiens mes frères et sœurs de Garaison. Vous êtes la honte. Et la justice ne fait rien. Ce gant blanc, c'est pour les victimes de violences sexuelles dans l'église. Nous ne lâcherons pas. Entendez notre colère.
Monsieur, j'entends votre colère. Elle ne m'est pas du tout indifférente. Je vous remercie d'exprimer votre colère parce qu'elle dit votre souffrance.
Non, c'est pas de la souffrance, monsieur, c'est un message politique, le message des victimes qui demande en fait que justice soit faite.
Après cet échange, Monseigneur Hayet a exprimé sa solidarité avec les victimes. Il a également regretté l'omerta généralisée qui régnait dans l'Église et la société durant des décennies.
Arambeng.
Allez, la transition n'est pas facile, Adrien, mais on célèbre ce soir sur RFI un anniversaire.
Et pour cela, écoutez cette archive sonore. Ce sont ce soir les 30 ans de Couleur Tropicale, l'émission des musiques afro tous les soirs sur RFI. C'était au mois de mars 1995. Écoutez l'une des toutes premières émissions de Claude Issiard.
Balou Kanta lui doit ses meilleures interprétations pour commencer ce programme spécial danse, tout ce qui vous fait danser, tous les meilleurs produits de discothèque. C'était Loka Saya Bongo. Tout de suite, voici une des grandes princesses de la musique ivoirienne, Nayan Kabel, avec Mon Paris. C'est de vous faire danser jusqu'à 21h en temps universel et 22h à Paris. Yo.
Ans plus tard,
il RFI, pas, Claudie, sa voix Claudicia, n'a pas changé.
Écoutez justement Romain, Claudicia et son équipe vous proposent ce soir un dispositif exceptionnel.
Écoute, ça va être un grand moment. J'ai encore du mal à me dire que nous avons 30 ans, que cette émission a 30 ans. J'ai le sentiment que c'était il y a 10 ans, que nous avons commencé il y a 10 ans. Ça va être un grand moment, évidemment. Au départ, le premier projet était de raconter les coulisses de Couleur Tropicale. Comment est-ce qu'on fabrique Couleur Tropicale? Et puis nous nous sommes dit, on peut pas faire ça. Nous sommes au service des artistes, au service des musiques. Et donc il y aura des artistes ce soir, il y aura beaucoup de musique, il y aura des surprises, il y aura les chroniqueurs, il y aura ceux d'hier et d'aujourd'hui. Ça va être un moment de fête extraordinaire. Beaucoup de monde dans le studio 1, le grand studio de RFI. Et j'ai envie de dire encore une fois, beaucoup de musique, beaucoup de fêtes. Et ça va être un vrai bonheur.
À ce soir, à partir de 20h10, temps universel, les 30 ans de Couleur Tropicale en direct sur RFI et en vidéo également sur les réseaux sociaux.
Ça va être énorme, la fête promet d'être belle, je peux vous dire que ça se prépare et c'est important. Merci beaucoup Adrien Delgrange, c'était le grand journal du soir sur RFI, les 18h16 en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Allez, dans les prochaines minutes, notre dossier défense, on évoquera l'état des forces en Europe pour faire face aux désengagements américains avec nos collègues de l'hebdomadaire Le Point qui se penchent sur cette question. Et puis nous irons dans un centre de recrutement de l'armée de l'air près de Paris pour voir si, eh bien, depuis que l'Europe s'apprête à prendre en main sa propre sécurité, eh bien, les candidatures augmentent. Réponse à suivre, mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Christophe Diremzian.
Bonsoir.
Allez, la semaine européenne de foot qui s'achève ce soir avec les huitièmes de finale retour des deux autres compétitions continentales, donc en dehors de la Ligue des Champions, à savoir la Ligue Europa où Lyon entrevoit les quarts de finale.
Oui, l'OL bien parti pour faire comme le PSG, mais à l'étage inférieur après sa victoire jeudi dernier sur la pelouse du Steaua Bucarest 3-1. Une avance appréciable sur l'adversaire roumain au coup d'envoi tout à l'heure au Groupama Stadium et un moral assez haut, gonflé par la victoire face à Nice en Ligue 1 dimanche dernier. Bref, les voyants sont au vert et les éteindre par un fiasco ne serait pas du meilleur goût. D'autant, explique l'attaquant belge Malik Fofana, 6 buts au compteur dans cette compétition, que la Ligue Europa est clairement un objectif de cette fin de saison.
Cette compétition aide beaucoup pour moi parce que ça apporte beaucoup de matchs aussi. Je pense à 6 buts et je suis très content avec ça. Cette compétition est très importante pour nous parce qu'on va aller le plus loin possible et je pense qu'on est dans le bon chemin. Tout le monde y pense, je pense tout le monde est conscient qu'on peut aller très loin dans cette compétition et on se focalise sur la qualif et après on verra le reste.
Malik Fofana, Lyon, Steaua Bucarest, 20h, temps universel, 3 autres matchs à suivre dans la soirée. Manchester United face à la Real Sociedad, 1-1 à l'aller. Tottenham reçoit les Néerlandais de la Z Alkmaar, vainqueur 1-0 lors de la première manche. Et les Glasgow Rangers qui accueillent les Turcs de Fenerbahçe avec la même avance que les Lyonnais, 3-1. Les 4 autres duels sont en cours, notamment la Lazio Rome, 5e de Serie A, contre les Tchèques du Victoria Plzeň et l'Ajax Amsterdam sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Un petit détour par la toute dernière année des Coupes européennes, la Ligue Conférence. Un seul huitième retour notable, Chelsea accueille Copenhague à 20h TU.
Et ce sera la fin de la séquence européenne, car la semaine prochaine, place aux sélections nationales. Et comme prévu, Christophe, Kylian Mbappé va faire son retour en équipe de France.
Oui, sans surprise, hein, Didier Deschamps l'a mis dans sa liste des 24 convoqués pour les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie les 20 et 23 mars. L'attaquant du Real Madrid n'a plus ni soucis sportifs ni extra-sportifs. Le sélectionneur en a aussi profité pour appeler un petit nouveau chez Léa, en tout cas Désiré Doué, 19 ans, vice-champion olympique à Paris l'été dernier, parisien en club, et choix naturel pour Didier Deschamps, séduit par, on va dire, beaucoup de choses chez le joueur.
C'est tout ce qu'il peut faire de bien, de très bien, avec son club, où il n'est pas toujours titulaire, mais quand il a joué ou a rentré, il a beaucoup progressé. C'est un très jeune joueur, mais de par ce qu'il fait, c'est intéressant pour nous. Ça aurait pu être plus tard, ça. Je l'ai fait là, parce que je pense que c'est le moment. C'est bien qu'il puisse être là avec nous. Il a 19 ans, il a beaucoup progressé par rapport à ce qu'il faisait à Rennes et au début au PSG. Et maintenant, à lui de confirmer tout ce qu'il fait de très bien jusqu'à maintenant et qu'il est censé continuer avec nous et après ce rassemblement aussi.
Et Didier Deschamps qui attend Désiré Doué et évidemment tous les autres joueurs lundi à Clairefontaine.
Voilà pour le football, le tennis, les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells en Californie.
Avec le double tenant du titre et numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, opposé à l'Argentin Francisco Cerundolo, également au programme, un duel entre le Russe Daniil Medvedev et Arthur Fils, le Français. Puis parmi les quarts de finale féminin, la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka face à la Russe Lyudmila Samsonova. Puis rapidement le cyclisme, la victoire du Français Lini Martinez à l'issue de la 5e étape de Paris-Nice à la Côte-Saint-André dans le département de l'Isère. Pas de changement au général, l'Américain Matteo Jorgensen conserve le maillot jaune, mais attention, Jonas Vingegaard de la même équipe Visma Lisebike a chuté à mi-parcours et pourrait souffrir d'une fracture de la main gauche.
Eh bien merci Christophe Diremzian, voilà qui est complet, c'était le journal des sports. Il est 19h21 ici à Paris. Le mot est fort, bazooka, et il témoigne ce mot de l'ampleur de la tâche. Bazooka, c'est ainsi qu'est surnommé le plan d'investissement massif que le futur chancelier allemand Friedrich Merz a présenté ce jeudi devant les députés, un plan doté de plusieurs centaines de milliards d'euros. Et au cœur de ce plan, évidemment, il y a l'effort inédit à fournir en matière de défense. Et c'est un débat d'ailleurs que l'on retrouve ailleurs sur le continent européen. Bonsoir Guéric Poncé.
Bonsoir.
Journaliste à l'hebdomadaire Le Point, vous signez l'article qui ouvre le grand dossier cette semaine dans Le Point, qui est intitulé « L'état des forces » et où eh bien, les grands enjeux de l'Europe pour assurer demain sa propre sécurité sont évoqués. D'abord, la question évidemment qui se pose suite au désengagement américain, à quel point aujourd'hui la défense européenne est dépendante des États-Unis ?
Et oui, c'est bien la grande question aujourd'hui. Hein. On a changé de monde, on le voit bien. Et aujourd'hui, le désengagement de l'Ukraine, c'est le symptôme le plus visible. Mais finalement, ce désengagement, il avait commencé bien avant Trump. Et l'enjeu pour les Européens, c'est donc de changer de posture. Hein. Pour les soldats français, ça signifie qu'il faut passer du désert saharien au steppes d'Europe de l'Est. Mais pas seulement, parce que les ennemis aussi changent. Et ce ne sont plus des groupes de djihadistes, mais une armée solide avec des matériels modernes. Et il faut donc changer de format d'armée, oublier le modèle de force expéditionnaire, pour devenir une armée de masse et être capable d'affronter la guerre de haute intensité, c'est-à-dire d'encaisser des pertes et de se régénérer.
Et ça se traduit comment, ce passage-là ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Qu'est-ce qui doit être mené ?
Alors, il y a plusieurs transformations qui doivent être menées, mais la plus urgente, c'est de récupérer des stocks de munitions, puisque aujourd'hui, notamment en France, mais dans toute l'Europe, c'est le cas, on n'a plus de stocks de munitions et on tiendrait quelques jours à quelques semaines, selon le type de munitions concernées, en cas de guerre. Et donc, là, vraiment, la première priorité, tous les spécialistes que j'ai interrogés m'ont dit ça, il faut remunitionner, comme ils disent, alors c'est un néologisme, mais il faut remunitionner nos armées. Ensuite, il y a une question sur le matériel aussi, puisque par exemple, en France, on a 200 000 soldats qui peuvent être capables de combattre, mais seulement la moitié à deux tiers d'entre eux peuvent être équipés en même temps. C'est-à-dire que il y a de quoi donner des blindés, si je puis dire, ou des armes lourdes à la moitié à deux tiers d'entre eux. L'autre partie irait en camion au front, comme me disait un des spécialistes que j'ai interrogé. Et donc, l'enjeu, avant même de recruter de nouveaux soldats, ce serait de les équiper et de leur donner de quoi se battre et se relever au front, bien sûr, pour qu'il puisse y avoir une rotation en cas de guerre.
Comment on peut imaginez que les moyens puissent être mutualisés en Europe sur cette question de la défense.
Le premier levier de mutualisation, c'est l'industrie de la défense. C'est-à-dire que à partir du moment où on aura des matériels communs, on pourra beaucoup plus facilement interagir puisque les doctrines d'emploi, c'est-à-dire la manière dont on utilise un char ou un navire ou un avion, dépendent des capacités des matériels. Et donc, si aujourd'hui on agit de manière différente entre l'armée française, l'armée allemande, l'armée polonaise, etc., c'est en partie parce qu'on n'a pas les mêmes matériels et pas les mêmes compétences, pas les mêmes capacités en fonction des matériels. Donc déjà, si on arrivait à construire des armements en commun ou au moins un petit peu plus standardisés que ce que l'OTAN nous donne aujourd'hui, ce qui est déjà une chance, hein, bien sûr, le standard OTAN nous permet de nous comprendre. Et il faudrait qu'il y ait un standard européen qui nous permette de collaborer particulièrement efficacement sur le front.
À quel point le défi est relevable quand on voit justement à quel point est sensible la question de l'industrialisation ? Il en a encore été question aujourd'hui en concernant la France. L'industrialisation a du plomb dans l'aile.
Alors effectivement, on est habitué depuis 10, 20, 30 ans à ce que les grands projets européens aient vraiment de très grandes difficultés à être menés. On le voit encore aujourd'hui avec le projet d'avion du futur ou de système aérien du futur, le SCAF, le projet de système de combat terrestre aussi, le MGCS, qui est le blindé lourd du futur avec ses matériels connectés. Cela n'arrive pas toujours pas à avancer, mais les spécialistes que j'ai interrogés, et je pense qu'on le voit aussi un petit peu en tant que citoyen, se rendent compte qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui depuis quelques jours, quelques semaines, et que aujourd'hui il est possible de faire avancer les choses en Europe. Les dirigeants qui étaient très frileux jusqu'à il y a quelques jours, aujourd'hui sont prêts à faire des avancées, à lâcher des choses sur des dossiers pour en gagner d'autres sur d'autres. Et donc, on peut assister à un retournement stratégique de l'industrie de la défense européenne, tout comme on a assisté à un retournement stratégique sur la planète.
L'état des forces, titre de votre article, titre du dossier, et puis titre tout simplement de l'hebdomadaire cette semaine, Le Point, est évidemment à retrouver sur votre site internet. Merci beaucoup, Guéric Poncet. Alors évidemment, tous les enjeux que l'on vient d'évoquer vont bouleverser les économies de demain avec un secteur de la défense qui s'apprête à être considérablement renforcé. Et en premier lieu, les armées. On va s'arrêter à présent sur l'exemple en France, car chaque année, en France, des milliers de femmes et d'hommes s'engagent. Est-ce qu'il y a déjà une augmentation des candidatures? Mathias Troud s'est rendu dans un centre de recrutement de l'armée de l'air près de Paris. Reportage.
À Rueil-Malmaison, à l'ouest de Paris, la caserne Guynemer abrite depuis peu un centre de recrutement de l'armée de l'air. 3 ans de guerre en Ukraine, le réarmement européen, est-ce que ça joue sur les candidatures? Pas vraiment, selon la commandante Célia Dunem.
C'est pas parce qu'on a une actualité plus intense à un moment donné que les processus de sélection, de recrutement changent un petit peu. Au contraire, la ligne est toujours la même. Et c'est surtout mesurer le sens de l'engagement, être conscient de ce que ça représente et venir effectivement pour exercer un métier au sein d'une communauté, un jeune qui vient en toute connaissance de cause.
Et justement, ce jour-là, au centre de recrutement, on retrouve des profils très variés. Au programme de ces 2 jours de sélection, visite médicale, épreuve physique et entretien d'évaluation.
Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Pour certains, l'engagement est une évidence. Ce premier candidat a 23 ans, il vient de finir son double master cybersécurité management. Il veut faire perdurer un héritage familial.
Mon grand-père était dans l'armée de l'air, donc pour moi c'est une suite assez logique de reprendre la relève. Depuis petit, alors j'ai eu 8 ans de différence avec ma sœur, mais on parlait de l'armée, qu'elle voulait rentrer dans l'armée. Au final, elle travaille dans le secteur de l'armée. Mon éducation aussi assez militaire, puisque ma mère a été éduquée par son père à la militaire, et donc forcément elle est militaire.
À sa gauche, c'est une hôtesse de l'air qui candidate. À 21 ans, elle veut convertir son métier civil en son équivalent dans l'armée de l'air, agente de sécurité cabine. L'armée, pour elle, ce n'est qu'une opportunité professionnelle.
Les contrats, ils sont beaucoup plus longs que dans les compagnies aériennes standards, donc c'est-à-dire qu'on s'engage pour 5 ans pour hôtesse de l'air dans l'armée de l'air. Il y a beaucoup plus d'avantages aussi. Il y a le côté aussi sportif qui m'intéresse énormément et je trouve les formations beaucoup plus intéressantes.
L'armée de l'air propose une 50aine de métiers et recrute à tous les niveaux, du collège jusqu'à au-delà du master. L'engagement de la commandante elle-même ne relève pas de la vocation.
J'ai répondu il y a presque 20 ans à une annonce à NPE pour un contrat d'un an. Et voilà, le contrat d'un an s'est terminé en presque maintenant 20 ans de service au sein de l'armée de l'air.
Le patriotisme aussi amène des jeunes à s'engager. Léo a 16 ans, il est passionné d'aéronefs. Devenir mécanicien aéronautique pour lui, c'est aussi un renvoi d'ascenseur.
La France m'a donné beaucoup, car je suis issu d'une famille qui n'est pas d'origine française. Et justement, j'aimerais lui rendre ce qu'elle a donné à ma famille.
L'armée de l'air et de l'espace recrute chaque année 3000 jeunes, l'armée de terre 16 000.
Merci, à demain pour ceux que je reverrai demain matin.
Voilà, reportage signé, Mathias Troud. Et bonne soirée à vous si vous nous écoutez. Il est 19h, bientôt 29 minutes ici à Paris. Dans une minute, ce sera la première édition de l'Afrique Soir. Et puis dans 30 minutes, le journal de Véronique Rigolet de 20h heure française. Et à 20h10, votre session reportage pendant 50 minutes avec Accent d'Europe. Et puis à suivre le grand reportage. L'info continue sur Radio France Internationale. Bougez pas, on vient dans une minute.
Ce samedi sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Il est l'un des 5 candidats à la présidence de la Banque africaine de développement. Amadou Hott, ancien ministre de l'économie du Sénégal, détaille son programme, commente les grands enjeux de financement sur le continent et la nouvelle donne internationale.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque ouest-africaine de développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Le 17 mars 2020, la France découvrait le confinement lié à la pandémie de Covid-19, une période qui a bousculé les vies et les habitudes. 5 ans plus tard, Témoin d'actu revient sur ces moments, ceux où la radio a continué d'informer malgré l'isolement des équipes et les défis techniques.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.